Avez-vous un médecin de famille? Non? OK. Si vous en avez un, tant mieux pour vous. Si vous avez fait la demande pour être sur une liste pour obtenir un médecin de famille, ça peut vous prendre jusqu'à 600 jours. Alors, si vous n'en avez pas, prenez-vous un bon élan. Quelle est la situation? Et ça, les chiffres que je viens de vous donner, 599 jours d'attente pour avoir son médecin de famille au Québec. Pas pour être soigné, pour être traité, pour rencontrer un médecin. Pour dire, j'ai un médecin de famille, je suis sur sa liste, peut-être de 1000 ou de 1100 ou de 1200 patients, je ne sais pas comment ils en prennent. Le docteur Abdou Chaba est urgentologue et membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Bonjour, docteur Chaba.
Bonjour.
Dites-moi, est-ce que le Québec est l'enfant pauvre pour ce qui est de la capacité d'obtenir un médecin de famille? Vous êtes sur le conseil médical canadien. Est-ce que c'est la même chose en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, peu importe?
Écoutez, il y a des différences dans l'organisation des services de santé entre chaque province. Il y a des exemples qui ont été des exemples à succès qu'on pourrait reprendre et mettre en place ici au Québec. Mais sommairement, la reprise, par exemple, je vais vous donner un exemple de la reprise au niveau de certains services post-première vague. Au niveau de la pandémie, ça a été la Colombie-Britannique qui a été la championne de pouvoir réduire la liste d'attente avec un investissement important, mais de réduire ça presque au même niveau avant pandémie. Donc, il y a des initiatives qui ont été mises en place pour certains types de services et qui ont réussi et pour lesquels on reprend la même chose puis on essaie de le mettre au Québec différemment en fonction de notre système de santé, mais clairement des exemples à succès qu'on pourrait reprendre et on pourrait même s'y inspirer. Notamment, je vous parle de la reprise chirurgicale, mais là, on peut reprendre le tout avec la reprise de la première ligne. Et là aussi, il faut avoir un plan de match par rapport à la reprise de la première ligne pour augmenter l'accessibilité auprès de l'ensemble des Québécois pour un médecin de famille.
Bon, alors, quand on parle d'un médecin de famille, c'est celui que je pourrais avoir ou que j'ai dans une clinique publique ou dans une clinique privée. C'est ça, un médecin de famille. C'est le médecin de médecine générale, un omnipraticien.
Oui, puis la majorité du temps, ils fonctionnent en groupe, donc il y a l'accessibilité est partagée, en fait, pour les services d'urgence, par exemple, de 100 rendez-vous au sein de certains groupes, et c'est les groupes de médecins de famille avec d'autres intervenants qui viennent les épauler et qui permettent de donner, en fait, une prise en charge plus complète sur l'ensemble des dimensions de la médecine générale.
Donc, au Québec, nous sommes les derniers de classe.
En fait, on est les premiers de classe à avoir le nombre de médecins de famille pour l'ensemble de la population, mais peut-être que nos services ne sont pas organisés d'une manière à offrir l'accès à un médecin de famille par, on va dire, citoyen, tel qu'on voudrait l'avoir. Donc, il faut une transformation du système. Et ça, c'est quelque chose qui est décrié depuis de nombreuses années, qu'il va falloir transformer notre système de santé. On a eu une réforme et qui a un peu amener une certaine confusion au niveau de la médecine générale parce qu'il y avait beaucoup de médecins qui faisaient de la première ligne, il y avait des médecins qui faisaient de l'hospitalisation, les médecins de l'hospitalisation sont allés en première ligne, ça crée une certaine pénurie, engorgement dans nos urgences parce que ce sont des vases communicants et après ça, là, aujourd'hui, on dit non, il faut retourner en première ligne, donc on les a ramenés au niveau des hôpitaux, là, on va les ramener au niveau de la première ligne et là, on voudrait les revoir dans les hôpitaux parce que là, les gens sont épuisés au niveau des services hospitaliers, donc il va falloir avoir un plan de match clair qui permet à l'ensemble de la médecine générale de s'orienter. Et évidemment, au niveau des groupes de médecins de famille ou de ces médecins de première ligne, c'est important d'avoir une approche plus structurée.
Je comprends. Mais la réalité, c'est que nous sommes la province où il y a le plus d'omnis et c'est la province où c'est le plus long d'en trouver un.
Oui, et c'est vraiment une question d'organisation, de structures qui sont en place. Et c'est ce qu'il faudrait transformer. Et on a une opportunité pré-pandémie, on parle un peu de quatrième vague qui s'en vient, mais il va falloir vivre avec la pandémie ou la COVID pendant les prochaines semaines, prochains mois. Et les gens ont toujours besoin de services de médecine générale. Moi, je travaille dans les salles d'urgence et je vois des patients qui auraient pu être gérés par leur médecin de famille qui arrive à la salle d'urgence parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès.
Oui, mais docteur Chaba, on s'entend là-dessus. Depuis que s'est créé ce système de santé-là, on a dit la porte d'entrée pour le réseau de la santé, c'est la salle d'urgence. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'on y va pour n'importe quel bobo, mais en fait, c'est pas urgent. C'est le médecin de famille que je veux voir. Je veux pas savoir, moi, si le gars a fait un post-doc pour me dire, écoute, tu t'es écrasé un orteil, là.
Définitivement que la médecine générale a eu beaucoup de transformations. Ce que vous dites, c'est que le début, ça a été avec les services d'urgence. C'était l'inverse, c'était beaucoup plus à travers les actions au niveau des CLSC, se sont transformés au niveau des groupes de médecins de famille, et c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qui a été valorisé durant les dernières années. Ça livre certains résultats, mais il faut continuer. C'est vraiment dans cet effort-là qu'il faut, pour éviter que quelqu'un qui a des problématiques qui peuvent être gérées en première ligne arrive à la salle d'urgence, et là, on sait que c'est plus coûteux, et ça vient congestionner le réseau, et des fois, ben, on fait du surdiagnostic par rapport à certains éléments par la force des choses.
Dites-moi, d'où vient cette lourdeur à faire bouger cette machine? Est-ce que c'est le corporatisme de chacune des spécialités qui tire son bout de couverte, tous en prétendant que nous sommes, nous, au centre de la préoccupation, évidemment, comme citoyens? Écoutez, là, les omnis, les FMOQ, les spécialistes, vous, les urgentologues, tout le monde... Tout le monde, puis son petit frère, tire son bout de la couverte quand c'est le temps d'arriver d'un fin de convention, et tout le monde prêche sur l'intérêt de la santé de la population. Qu'est-ce qui fait que c'est lourd comme ça depuis 40 ans?
Ben, écoutez, vous avez cité quelques éléments de réponse un peu, mais l'idée derrière, c'est de travailler en collaboration. C'est vraiment essayer de se centrer sur les besoins des patients. Et il se peut qu'il y ait des fois, il y a des négociations qui sont au niveau syndical, qui se passent, puis qui ralentissent certains efforts, et c'est ce qu'il faudrait accélérer. Donc, il faut vraiment arriver à la même destination, c'est-à-dire au service des patients. Mais je pense que les gens essayent de collaborer de bonne foi, les médecins, les autres intervenants, les autres professionnels. Il faut se structurer. La première étape de cette transformation du système de santé est d'en parler. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc là, après pandémie, si on peut le dire, il faut vraiment essayer de revoir pas juste notre système hospitalier qui était un peu
secoué.
Qui était secoué puis qui était la porte d'entrée de l'ensemble un peu des services que les patients qui étaient atteints de la COVID allaient chercher. Mais là, il faut revoir notre système, à la fois au niveau hospitalier, parce que là, on a de la fatigue, on a de l'épuisement des professionnels, mais également au niveau de la première ligne, et peut-être revoir d'autres modes de fonctionnement qui vont nous permettre de contrer un peu. En fait, il ne faut pas revenir dans l'ancien modèle, mais de partir avec de nouveaux modèles. Juste un exemple, avec la première ligne, des soins à domicile. Donc ça, les soins à domicile ont été dans d'autres pays, là, je vous parle en Europe, c'est le financement des soins à domicile, c'est moitié-moitié. Nous, c'est un quart, 75% qui sont pour les autres services qui ne sont pas des soins à domicile. Mm-hmm. Puis au Danemark, c'est 73% du budget. Donc, moindrement qu'on arrive proche de la communauté, moindrement qu'on arrive à responsabiliser un peu la communauté, à mettre des intervenants en place, ça vient aider. Ça coûte moins cher, ça aide. Les gens sont plus satisfaits. Donc, il y a de nouveaux modes à intégrer par rapport à la prestation de services au niveau de la première ligne.
Monsieur Chabat, merci beaucoup, Dr. Chabat, de nous avoir éclairé un peu là-dessus. Et du même coup, je me dis, tiens, c'est une autre réforme annoncée. C'est la combientième,
écoutez, ma foi. Oui, bien écoutez, c'est une transformation. Le système a été secoué récemment par la pandémie. Ça nous a montré des failles. Ça nous a montré aussi qu'on est capable de travailler en collaboration, qu'on est capable de soutenir.
Souhaitons-le.
Souhaitons-le, voilà.
Merci beaucoup, Dr. Chabat. Merci bien. On s'arrête pour une pause.
Merci à vous.
Au revoir.